Martine Galland et Madeleine Caboche.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous envoyons de moins en moins de cartes postales depuis qu'on s'écrit des textos et que les photos passent directement sur Facebook. Et puis les couchers de soleil sont remisés parmi les pires des clichés, les timbres n'intéressent plus grand monde et les bureaux de poste vendent des bonbons. Alors tout fout le camp et même Madeleine Caboche va quitter le micro en cette fin d'émission. C'est pourquoi nous avons choisi, Madeleine, pour cette dernière de ton très beau parcours radiophonique, de nous installer dans la carte postale. Tu es d'accord que l'image, c'est ce qu'on demande tous les jours aux reporters de Détour. On leur dit « faites image, on veut voir, mettez-nous des sons qui font qu'on voit ». On veut tout voir en écoutant, en allumant la radio. Alors aujourd'hui, je vais vous faire l'image. Nous sommes sur un voilier, un petit comité installé sur un voilier qui vient de quitter le port de Lutry, qui navigue dans le bleu extraordinaire du lac Léman. On va aller du côté des vignes de Lavaux. On voit Genève un peu à l'horizon, au loin. Des nuages très blancs, très loin, sur le Jura. Et c'est jusqu'à 16h30 que nous allons voguer pour une émission spéciale. Alors, on avait dit qu'on allait inviter des amis, parce que pour toi, l'amitié, c'est primordial, Madeleine. Tu vas nous les présenter tout à l'heure, mais je vais déjà dire pourquoi tu as mis un pull marin et moi des lunettes noires, comme on le disait dans la promo. Les lunettes, c'est simple, ça masque l'émotion. Et puis le pull marin, c'est parce que dès qu'il s'agit de mer et de bateau, de bleu et de l'eau, on te voit respirer mieux. On te voit te réjouir, te détendre, être prête à partir à l'aventure. Et en fait, on a vraiment besoin de tout ça aujourd'hui. Alors, tu nous présentes les amis qu'on a embarqués, Madeleine ?
Alors, on est embarqués grâce aussi à Monsieur Cortési, qui est notre skipper, qui est en quelque sorte notre invité aussi aujourd'hui.
Alain.
Bonjour, Alain. Et puis, nos invités, effectivement, des amis, des gens que nous avons croisés régulièrement, comme Caroline Rigel. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Madeleine.
Alors, Caroline Rigel, elle nous a fait pleurer. Tu te souviens, Martine, c'était il n'y a pas longtemps, c'était au Festival d'Albertville, le Grand Bivouac, où elle présentait son film, le film d'une rencontre avec 12 nonnes, ou 10, hein, 10 ou 12.
Oh, elles ont été 12, puis 11, 10 en voyage.
Et qui vivait aux Anskar, que Caroline connaissait bien. Elle les a emmenées pour un tour de l'Inde et le film de cette aventure était proposé à Albertville et nous, on était en larmes tellement c'était beau, c'était les semeuses de joie. Donc on va revenir sûrement là-dessus. Et puis, un grand complice de toujours, Olivier. Olivier, on se connaît, mon Dieu, on ne compte plus. Hein, j'ai très peur de ce qu'il va dire. Oui, 40 ans. 40 ans parce que quand tu es partie une des premières fois en Asie, tu m'envoyais des cassettes. Des cassettes à l'époque, c'était avec des petites bandes qui se défilent et qui se cassent facilement. Tu m'envoyais des cassettes où tu me racontais, tu disais voilà, je suis à Bénarès. Et je passais ça dans mes émissions du soir. Donc ça, il y a prescription, c'était il y a longtemps. Et puis on a cessé de se suivre. Olivier Folmy, je crois que voilà, on ne le présente plus. Et puis on a Sylvain Nicolier. Alors Sylvain Nicolier, c'est le jeune de la bande aujourd'hui. Sylvain Nicolier, est-ce que tu te présentes toi, Sylvain Nicolier ?
Pourquoi pas ? Donc en fait, moi j'ai créé un site internet de voyage participatif qui s'appelle Suisse-moi. L'idée, c'est que ce soit les internautes qui définissent le contenu de mes voyages. Pour l'instant, je définis les destinations et après on me propose des défis, des activités à réaliser et je fais des vidéos.
Alors, on avait envie que Sylvain soit là parce que le voyage a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. On ne voyage pas de la même manière aujourd'hui. Donc, on va faire un peu les rencontres intergénérationnelles aussi à travers le voyage et les manières de le faire. Et puis, c'est vrai que pour cette émission, on avait un peu peur d'être ému. D'ailleurs, on a essayé de préparer cette émission avec Madeleine depuis une semaine. On n'a jamais réussi.
On va faire de l'impro totale.
Hein? Donc, c'est l'impro. Voilà. Et donc, on avait aussi peur de manquer de temps. C'est paradoxal, on n'a rien préparé, on a peur de manquer de temps, donc on a peur que tout se termine trop vite en gros. Donc on a proposé l'émission jusqu'à 16h30 et d'embarquer Lucas Torrent. D'habitude on l'entend avec Pantagruel, mais aujourd'hui tu es avec nous.
Oui, avec
Lucas.
Plaisir. Et moi je viens surtout pour nager avec les dauphins à un moment. Et,
qui nous suivent au loin.
Voilà, et je sens que je suis un bon marin parce que je suis le seul qui ait gardé mes chaussures et je sens que c'est bon signe.
Peut-être que tu vas nous présenter les invités encore mieux qu'on pourrait le faire nous.
Oui, moi je trouve que comme choix d'invité, bon, vous êtes des personnes exceptionnelles, mais je trouve quand même que c'est assez cruel par rapport à l'auditeur, parce qu'on parle voyage et vous avez choisi de trois personnes qui sont des sortes de superstars du voyage, donc lancer ces trois super-héros au visage des auditeurs, je trouve ça pas très correct, parce que je vais vous présenter déjà Sylvain Nicollier, hein, vous parcourez le monde suivi par des internautes en folie qui vous lancent des défis. Alors après nous, quand on va évidemment en vacances en France, au centre, on se sent un peu idiot, hein. Vous êtes à Turmlitch en Azerbaïdjan, puis il y a Michel de Pompaple qui lance le défi de descendre une pente en roller. Ça, j'ai remarqué, où que vous alliez, il y a quelqu'un qui vous lance le défi de descendre une pente en roller. Ça, c'est assez bon.
Ça peut paraître bizarre, hein, mais les gens me connaissent bien, ouais. Donc ils savent que j'ai toujours des rollers au pied.
Oui, je suis à Tuvalu, altitude 3 mètres, je suis sur le point culminant de l'île à 4 mètres, j'ai une vue extraordinaire, je vais descendre cette pente à roller, c'est vraiment très bien. Manger, descendre en roller et manger des trucs bizarres, ça c'est une autre passion des gens, j'ai l'impression.
Ah, ils adorent me faire goûter des trucs qui puent ou qui sont, voilà, vraiment très bizarres.
Donc après, nous, quand on part en vacances, on mange des trucs normaux et du coup, on est complexé, mais c'est rien. Vous, par rapport à Olivier Felmy, le Michel-Ange de l'enfant mignon, hein, attention, mignon mais un peu sale, hein, ça c'est important. Avec Olivier Felmy, c'est le Victor Hugo du portrait d'enfant aux yeux verts, hein. Vous êtes le Kurosawa du prépubère à la pupille océane, hein. N'importe quel pays où vous allez, vous trouvez un enfant, alors il est un peu sale, mais il est mignon, il est hyper mignon. Alors il a des yeux comme ça, il a des yeux incroyables, il a un regard, si c'est pas Véron, c'est qu'il y a des paillettes d'or, c'est juste incroyable. Moi, quand je pars en vacances, je trouve des enfants, ils sont sales, ils ont les yeux bruns et ils sont pas forcément mignons. Mais alors la pire dans ce bateau par rapport au complexe quand on voyage, c'est Caroline Rigel. Alors vous mettez vraiment la pression à tout le monde parce que chaque fois que vous voyagez, vous fondez une ONG, vous organisez des voyages pour nonnettes. Attendez, sur votre site, vous mettez pour en 2012, vous écrivez « Voyage aux Anskars avec pour premier projet la construction de bâtiments scolaires à la nonnerie de Tungri ». Ben moi, en 2012, mon premier projet, c'était éventuellement boire une bière en terrasse et pourquoi pas manger des chips. Non mais mettez la pression, vous êtes né en 74, vous avez le même âge que moi, donc ça c'est hyper complexant. Diplômé de l'université de Stuttgart en plus, quoi. Semeuse de joie, moi je dis semeuse de complexe, hein, de vrai la vie. Donc merci d'être là, merci de nous mettre la honte. Merci. Où qu'on aille cet été dans la vie, on n'aura nous pas des enfants mignons aux yeux gris, personne va nous demander de descendre une pente en roller. Et on va pas fonder d'ashram éco-citoyen. Encore merci.
Une réponse, Caroline, à Lucas. Mais il faut bien remplir sa vie de bière ou d'ashram.
Est-ce qu'on peut faire les deux?
Oui, on peut faire les deux. Aux Anskars, on ne boit pas de bière, on boit du chang et c'est par seau entier. Alors, pas les nonnes.
Mais les voyageurs, ça fascine beaucoup ce portrait que fait Lucas. On vous le renvoie parfois, le héros voyageur, ça existe encore?
Moi, on me dit parfois, je suis un grand photographe et à la quoi je réplique, je mesure 1m73, je suis pas plus grand, pas plus petit.
Et toi, Sylvain, tu fais rêver les gens?
Oui, il y en a beaucoup qui me disent, mais t'as de la chance, mais comment tu fais pour voyager, comment tu fais pour avoir une vie comme ça? Puis moi, je trouve qu'on a une telle chance déjà d'être né en Suisse, on peut réaliser vraiment tous les rêves qui sont possibles et imaginables qu'on a. Et du coup, c'est à chacun de vraiment faire ce qu'il a envie.
Donc c'est créer sa chance et choisir de partir. Comment elle naît, Caroline, cette impulsion? Parce que vous ne voyagez pas comme les autres, vous en avez mis ça au cœur de votre vie.
Ben, c'est difficile à expliquer parce que c'est vrai que c'est sans doute quelque chose qu'on a au fond de soi. On a tous cinq sens qui ont besoin d'être nourris. Alors peut-être que c'est une question d'énergie, on a besoin de plus de nourriture que d'autres, ça dépend. Il y a des gens qui se contentent aussi peut-être de choses plus douces et d'autres qui ont besoin de choses plus énergiques, plus fortes, plus denses.
Monsieur Cortési, vous voyagez beaucoup, vous?
Alors moi, j'ai voyagé dans ma jeunesse, surtout pour des régates. Je suis un pur régatier, j'ai été au Brésil, en Australie, faire des championnats du monde. Voilà.
Et puis le bol d'or, il n'y a pas longtemps?
Et le bol d'or, il n'y a pas longtemps. Malheureusement, on a dû abandonner pour Cars. Voilà.
Olivier, ça a commencé quand la démangeaison de l'ailleurs?
À ma naissance, je crois.
Oh, frimeur, non.
Je suis né avec ces gènes. J'ai eu des parents qui m'ont laissé libre très jeune. Donc, à 12 ans, j'étais à l'île de Wight, en Angleterre, pour écouter John Baez.
À 12 ans, vraiment ?
À 15 ans, je suis mouillé à 12 ans. Ah.
Ouais. Tout seul ?
Tout seul. Enfin, non, avec mon frère et ma sœur.
Je sens qu'elle ne va rien laisser passer, Madeleine, aujourd'hui.
Non, à 15 ans, je suis parti en stop depuis Genève pour aller faire la piste royale dans la Laponie. Et je suis monté avec mes skis de fond. Donc j'ai attendu 3 jours sur l'autoroute allemande qu'un camion prenne. Mais j'avais ça dans le sang, ouais, Girons. Il y a 17 ans, je suis parti en Asie.
Alors comment, 3 jours sur l'autoroute allemande avec de quoi boire, de quoi manger ?
Oh, de quoi, il y a toujours une biscotte dans le fond du sac. Et puis j'avais une petite tente. J'avais mis ma tente au bord de l'autoroute. J'avais mis mon bâton avec un gant en signe de faire du stop. Et puis je dormais le soir dans ma tente. Et puis le lendemain, j'étais à côté de mon bâton qui faisait du stop. Mais ça m'a quand même pris 3 jours pour qu'un camion s'arrête. Hein. Mmh.
Mais aujourd'hui, vous vivez de la même manière, mais version luxe avec un camping-car. Là, vous faisiez du café juste avant d'embarquer sur ce bateau.
Oui.
Chez vous.
Moi, j'ai besoin d'être nomade et sédentaire. Je ne peux pas être uniquement nomade et uniquement sédentaire. Et le camping-car, pour moi, je ne vis pas dedans constamment. Mais c'est mon espace. Et quand j'ai besoin d'écrire, je prends ce camping-car, je le mets dans un champ. Je choisis ma résidence secondaire. Je choisis mon paysage, l'harmonie que je cherche. Hein, et c'est très inspirateur. Je ne peux pas m'en passer.
Et vous, Sylvain, comment ça a démarré ce goût de l'ailleurs ?
Moi, c'est vrai que le discours par rapport à une dynamique, à la recherche d'énergie, etc., c'est quelque chose qui me parle. Moi, je pense, depuis tout jeune, j'ai peur de me réveiller à 80 ans ou à 90 ans et me dire, mais tiens, j'ai rien fait de ma vie, j'étais embarqué dans une routine de travail, enfant, maison, etc. Donc moi, j'ai toujours recherché à faire des choses dynamiques, à vivre intensément. Et je trouve un truc incroyable avec le voyage, c'est que les grands voyageurs le disent. Moi, je m'imagine, pourquoi je trouve pas que je suis un grand voyageur, mais à chaque long voyage, pour finir, on a vécu une vie supplémentaire. Nos sens ont tellement été en éveil, on a vu tellement de choses, on a goûté, on a vécu intensément, et du coup, c'est comme si on avait vécu une vie supplémentaire. Donc j'essaye de vivre plein de vies.
Et vous, à 12 ans, Caroline Rigel, vous étiez déjà sur les routes de l'île de Wight ?
Non, moi, ça a été plus graduel. J'étais une enfant sage et heureuse. Hein. J'ai vécu dans la vallée de Munster. C'est un petit paradis sur terre, un peu comme ici. Hein. Il y a des vignes, il y a des montagnes, il y a des rivières. On est loin des villes, on est loin des bruits les plus forts et les plus fous du monde. Et c'est finalement en grandissant, je pense en entrant dans la vie adulte, qui est aussi le moment de sa vie où on arrête un peu de se laisser porter, parce que quand on est jeune, on peut se laisser porter par sa famille, par les études, on vit des choses, tout ressemble un peu à une aventure, on est en perpétuelle découverte, apprentissage. Moi, c'est des choses qui me nourrissent, que j'aime. Et puis un jour, on se rend compte que c'est plus forcément là devant soi, et qu'il va falloir, si on veut le vivre, il va falloir le vivre soi-même,
se donner les moyens de le vivre.
Voilà. Et là, je pense que j'ai effectivement passé un moment dans ma vie de questionnement pour essayer d'aller au plus profond de moi et me construire finalement une vie qui était en résonance avec l'énergie que j'ai ou que je souhaite ou que j'avais besoin de dépenser, avec la curiosité que j'ai et que j'ai besoin de nourrir, et un peu tout ce qu'on a en soi, ouais.
Alors Madeleine, nous on est en rapport dans notre bureau de détour avec plein de jeunes reporters qui se balancent comme ça sans cesse dans des voyages et qui vont et repartent encore. Et aujourd'hui, on a décidé d'en accueillir un pour nous raconter justement son impulsion de départ. C'est vrai que nous on reçoit tous ces projets, des discussions, on a des discussions sur les propositions qu'on reçoit, à se dire mais est-ce que ça sera bien dans le poste. Et puis on va dire aussi le souhait qu'on a eu depuis 3 ans qu'on fait cette émission ensemble, Madeleine, de mettre dans la radio des histoires de gens qui vont bien et de raconter aussi la beauté du monde malgré tout ce qui se passe de difficile ou de douloureux dans le monde. Alors là, c'est Antoine qu'on a au téléphone.
Alors on rejoint Antoine qui nous a invités dans un très très beau voyage à Venise la semaine dernière. Bonjour Antoine.
Bonjour Madeleine.
Alors Antoine Lalanne d'Aimé. Antoine, on avait envie de comprendre comment s'était déclenché chez vous, jeune reporter, l'envie de partir. Qu'est-ce qui vous a poussé hors de chez vous ?
Eh bien moi, c'est une bourse de voyage que j'ai eue quand j'avais 18 ans de l'association Zelidja. N'importe qui peut l'avoir, il suffit d'avoir entre 16 et 20 ans, d'accepter de partir tout seul au moins un mois. et de rendre un rapport de voyage sur un thème qu'on a choisi. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait ça et ça a changé beaucoup de choses.
Et alors ce pas-là, parce que vous me disiez quand on a parlé de ça, j'étais quand même un petit garçon assez, enfin un jeune homme assez attaché à sa famille, c'était un pas assez fort de partir comme ça, une première fois.
Oui, parce que j'étais resté dans ma ville, à Bordeaux, j'avais pas beaucoup voyagé et puis surtout je partais de chez mes parents en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup je me suis retrouvé tout seul à l'étranger. Et quand on a 18 ans, bah, il faut se débrouiller et faut rencontrer du monde. Et c'est là que j'ai cuisiné pour la première fois, c'est là que j'ai fait mes premières machines
à laver. Cuisiner pour la première
fois ? Oui, tout ça. Oui, oui. Bon, c'est des petits détails, tout ça. Mais surtout, c'est là, en fait, où j'ai vraiment appris à voir que je pouvais faire des choses moi-même, en fait. Et que j'avais pas forcément besoin de mes parents, de mes amis, que je pouvais me débrouiller.
Et puis, au fond, c'est ce qui vous a donné, après, le goût du métier de reporter journaliste ?
Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que ces rapports de voyage, en fait, donc j'ai fait deux voyages comme ça, et le premier, j'ai fait une vidéo, et le second, j'ai fait quelque chose de sonore, un reportage sonore d'une heure, et finalement, maintenant, je fais de la radio. Et c'est ce que je voulais faire, mais je n'osais pas vraiment le faire, et quand j'avais 18 ans. Et là, d'avoir cette bourse, d'avoir cette obligation, ce cadre, de rendre ce rapport, de voyager, tout ça, et bah, ça m'a obligé à le faire, je l'ai fait, et j'ai vu que bah, j'en étais capable, alors j'ai continué. Et ça m'a donné le goût du voyage, ça
deadline.
M'a donné le goût des autres. Oui, voilà, c'est avec deadline, oui.
Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes presque patron de cette association qui finance justement des jeunes qui vont partir et vous faites partie du jury, c'est juste, hein ?
Oui, je suis vice-président. Et cette année, il y a 118 jeunes qui vont partir avec une bourse partout dans le monde. Il y en a qui partent dans le Pacifique, il y en a qui partent en Afrique, il y en a qui partent en France aussi. C'est vraiment, on fait le voyage qu'on veut à sa mesure. Non, mais c'est une expérience. Cette association, elle existe depuis 1939 et il y a des gens qui sont très investis, qui ont fait leur voyage en 1950. Donc c'est pour dire à quel point ça les a marqués. Et moi, c'est pareil.
Et que tout est toujours possible aujourd'hui. Alors Antoine, on vous retrouve à la rentrée avec d'autres reportages parce que c'est la dernière émission de Madeleine et nous, on va continuer des tours à partir du 29 août après la grille d'été. Madeleine, tu as choisi toutes les musiques aujourd'hui. Et là, on commence avec un italien.
Oui, alors on va écouter Gian Maria Testa qui chante « Como le onde del mare ».
Certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare, la la la.
Voilà, c'était Gian Maria Testa. Et puis, on a arrêté le bateau.
Parce que Olivier Folmier était fatigué de monter les voiles. Non ? C'est fatigant de monter
avec
les voiles ?
Avec un vent force 8, oui.
On risque de cuire ou de bronzer comme ça, arrêté au milieu du lac. Mais c'est le jeu, hein, Madeleine. Tu aimes l'aventure. Tu voulais une émission dernière différente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de voyager. Je ne sais pas quelle est la tienne, mais Lucas, tu as exploré un peu les différentes facettes du voyage.
Oui, mais j'ai compris que vous m'avez invité dans cette émission comme expert voyage.
Bien sûr.
Et du coup, j'ai fait une étude sociologique très poussée qui se base sur un échantillon de 12 personnes. C'est le couloir du troisième étage de la radio côté Vevey et mes amis, donc autant à peu près 30 personnes qui participent à cette. Et donc, je peux vous donner la conclusion. Il y a deux types de grands voyageurs, selon moi. Il y a le voyageur qui cherche toujours la destination la plus originale possible. Ça, c'est l'autre jour à la radio, il y avait une discussion entre collègues sur mon étage. Moi, j'essayais de travailler, ça criait dans le couloir. Il y a Zendali, donc on a presque dû évacuer l'immeuble, si vous voulez, au niveau des décibels. Donc c'était un peu en mode concours de Wienerli sous la douche après le foot, vous voyez. Et puis donc chacun y allait de sa pire anecdote. Ah, mais moi, j'ai visité un poste frontière en Biélorussie en 89. On a été retenu 72 heures sans manger. Puis l'autre disait, ouais, mais moi, au Libéria, j'ai fait du camping sauvage dans un champ de mine. Mais ça c'est rien, moi je me suis fait molester par des guerriers roses roumains dans la jungle amazonienne, moi j'ai fait du roller en Azerbaïdjan parce qu'il y a Magali de Renault qui me l'avait demandé, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et le pire pour ce genre de voyageurs, c'est que l'originalité, ces voyageurs qui aiment l'originalité, c'est que leur pire crainte, c'est pas de choper une cystite au milieu du désert, c'est pas d'être attaqué par des pitons, leur pire crainte, c'est de croiser un voisin quand ils sont dans cette destination tellement exotique. Alors là, s'ils croisent un ami ou un cousin un peu plus bête, selon eux, là c'est la dépression pendant des années. Donc ça, c'est un grand type de voyageur. Et puis l'autre type de voyageur, ça, c'est les gens qui, sans s'en rendre compte, font absolument comme tout le monde. Ils font la même chose que tout le monde et ils font pas exprès. Ça dépend de la classe sociale. Moi, par exemple, je suis entouré de gens qui vont en famille en Bretagne. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a une sorte d'engouement incompréhensible pour la Bretagne. C'est comme si Bretagne Tourisme avait mis en place une conspiration mondiale avec des messages subliminaux. Je sais pas, mais
bon, c'est beau,
tous...
la Bretagne, quand
oui,
même.
Tout à fait. Moi aussi, je suis allé en Bretagne quand j'étais jeune, j'ai de très bons souvenirs de marée basse qui sent la crevette, avec les bottes qui prennent l'eau, puis il se met à bruiner quand on visite un calvaire, et ses parents vous disent, mais on va pas manger des crêpes parce qu'on est en Bretagne, on mange pas de pizza en Italie, on mange pas de crêpes en Bretagne, donc j'ai aussi de très très belles expériences
bon,
bretonnes.
Bien
sûr, j'ai chopé une grippe, on s'est baigné dans l'eau, on était tout bleu, j'adore la Bretagne, hein. Et donc les gens vont tout le temps en Bretagne, ça c'est assez marrant. Puis en fait, je me suis dit, mais non, il y a encore un autre type de voyageur. C'est celui qui creuse son sillon. C'est un peu comme moi, je vais toujours dans le même pays. Alors pas au même endroit, mais toujours dans le même pays. Je vais toujours en Grèce. Et au bout d'un moment, on apprend à connaître la place complexe de cette nation qu'a dû choisir entre Orient et Occident. On arrive à comprendre les personnages. Puis on sait qu'on commande le pinard au kilo en Grèce. Vous voyez, donc ça vaut la peine. Après 6 ans, on commande son pinard. Et puis d'ailleurs, vous, Madeleine, vous qui allez depuis 45 ans en Corse.
60.
65 ans en Corse. Au début, les insulaires vous pointaient leur fusil de chasse vers votre visage. Et maintenant, ils vous regardent de leurs grands yeux doux.
Et maintenant, je fais partie de l'Écosse, de la Corse indépendante.
Voilà, exactement. Et vous, Martine, qui depuis des années faites des retraites méditatives en Inde pour aller boire du beurre fondu pour vous sentir mieux, et ben après 10 ans, vous avez découvert que cette substance jaunâtre que vous aviez tellement de mal à avaler, ben en fait, c'est des bougies.
Mais c'est ça.
Mais oui, c'est pour la lumière et tout. Donc il y a 3 écoles. On parle pas des 3 qui sont venus nous embêter là avec leurs vacances incroyables, les Fulmi et autres invités. On parle des gens normaux.
Comme nous.
Hein, voilà, comme nous. Ouais. Et je pense que chaque voie est juste tant qu'on a un but, comme par exemple nager avec les dauphins.
Mais Lucas, l'année prochaine, vous allez en Azerbaïdjan. Allez.
Nu.
Oui,
ouais.
Nu.
D'accord.
C'est d'accord.
Ça marche. Oui, en vélo.
Top là.
Ça marche.
Olivier Folmy, votre style de voyage, là, quand vous êtes. Parce que vous avez creusé le sillon, hein, vous faites carrément partie de cette catégorie-là. On va dans une direction et puis on y retourne.
Ah oui, moi j'ai passé 20 ans dans le monde himalayen et j'y retourne encore, je me relie à mes amours de base puisque je pars là demain au Tibet. Oui, j'ai besoin de retrouver les mêmes cultures, les mêmes gens. Ce qui m'intéresse, c'est l'affinité avec les gens. C'est construire quelque chose avec les gens. Donc je retourne régulièrement dans les endroits que j'ai aimés, bien sûr.
Olivier, tu peux dire que tu as décalé ton voyage pour nous ?
Pardon ?
Tu peux dire que tu as décalé ton voyage pour nous ?
C'est évident, Madeleine, puisque c'est notre dernière émission, c'est ta dernière émission, et je ne partais pas sans la faire ensemble.
Caroline, c'est aussi l'Asie.
Mais oui, oui, moi je pense que creuser le sillon, ça me parle aussi. Approfondir les relations, évidemment, aussi. Après, je crois profondément que notre plus grande richesse ou notre plus belle richesse, ou en tout cas elle est essentielle et elle est belle, c'est la diversité. Donc moi j'aime vraiment cette diversité. Le problème, c'est que quand on voyage, on est pris soi-même par le voyage, par les rencontres, et certaines vont vous marquer plus que d'autres. Avec certains, on va passer plus de temps, donc on va approfondir les relations, et après, on est pris soi-même par ce qu'il y a de quand même de plus essentiel dans la vie, qui est la relation, l'amitié, approfondir la connaissance des autres et de soi, et ça, on peut pas non plus être partout avec tout le monde au même moment. Et donc moi, j'aime profondément découvrir et savoir cette diversité. En même temps, je suis prise par ces sillons que j'ai creusés.
C'est
que
le bateau de la CGM qui passe à côté de nous. Hein.
Toujours aussi. Caroline, on avait dit qu'on réfléchirait à la notion de départ. Quand les nonnes du Zanskar, qui n'avaient jamais quitté leur petit bout de terre, se sont apprêtées à partir pour ce voyage de 3 mois en Inde, comment s'est passé ce départ, les 3 jours qui ont précédé?
C'était assez marrant parce que les quelques jours qui ont précédé, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. C'était quand même une première pour elle, pour les villageois, pour la nonnerie qui allait être vide. On est quand même dans un lieu imprégné d'une certaine culture, de certaines croyances aussi.
Donc, il y avait des rituels à faire avant de partir.
Donc il y avait des prières à faire. Il fallait choisir le bon jour. Il fallait que tout soit prêt. Il fallait qu'elle chacune dans leur famille aussi,
de façon communautaire. Leur famille pour dire au revoir avant de partir.
Oui, je pense qu'il fallait. Je sais même pas forcément exactement ce que chacune avait à faire parce que finalement, pendant la semaine qui a précédé le départ, moi je maîtrisais absolument rien. On était vraiment dans leur culture. Et c'est moi qui ai pris le relais une fois qu'on a été en dehors de leur univers. Tant qu'on était dans leur univers, elles ont géré tout selon leur manière et la manière qui leur semblait aussi bonne et essentielle.
C'est très bruyant cela, Clément.
Hein. On a le train.
Ah là maintenant c'est le train.
Il y a
cargo,
le train qui passe.
C'est l'émission voyage.
Un train de marchandises.
Voilà.
Le bateau est déjà beaucoup plus loin.
On est presque à Montreux.
Moi, on parle des départs aujourd'hui. J'ai envie de savoir, Olivier, vous qui partez et repartez en direction de l'Asie, si la veille du départ, il reste toujours une petite tension.
Une tension, non, une appréhension joyeuse, je dirais, parce que j'aime l'idée de changer de vie quand je pars en voyage. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, j'estime que je quitte une vie. Je dis au revoir à mes amis, je dis au revoir à ma famille, comme si je ne revenais pas, parce que je ne suis jamais sûr de revenir. Et en même temps, j'aime l'idée que je renais, d'une renaissance quand je pars en voyage. Et je suis toujours excité à l'idée de cette renaissance.
Donc il y a vraiment cette idée de se balancer, un peu comme si une petite mort, comme si on n'allait pas vraiment revenir, on n'est pas sûr en tout cas.
De toute façon, on n'est jamais sûr de revenir et puis un jour, je reviendrai.
Mais pourquoi ? Parce qu'on risque de mourir ou parce qu'on risque de s'attacher sur place ?
Non, pas du tout. Mes attaches sont là, bien que chaque fois que j'étais dans un continent, j'avais pas envie de rentrer. En même temps, non, on peut déjà, je risque de mourir en voyage, c'est quand même partie de la vie.
En moto, par exemple.
N'importe comment, je sais pas. C'est pas grave, je me réjouis, moi, de mourir. Et donc, j'ai pas l'appréhension par rapport. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours aimé vivre, quitte à en mourir. Et normalement, je ne devrais pas être là, parce que j'ai quand même pris beaucoup de risques dans ma vie. Donc la mort ne me fait pas peur, au contraire, elle m'attire. Hein. Et non, je ne crois pas. Il ne faudra pas me pleurer si je meurs. J'ai bien vécu.
Ça, ce n'est pas votre problème, on pleurera.
Sylvain, par rapport au départ, est-ce que dit Olivier ?
Je trouve la peur, je trouve déjà c'est une valeur, quelque chose de positif, parce que ça nous permet de mettre un peu de recul sur certains endroits. Avant certains départs, j'ai vraiment peur d'arriver. Par exemple, là, je suis parti au Mexique 3 mois. Je devais arriver à Tijuana, rencontrer une personne que j'avais vue un jour au Maroc à qui j'avais fait du stop. Je lui avais envoyé 4 000 $ et il devait m'acheter une voiture à Tijuana. Donc, j'avais un peu peur. Je me demandais s'il allait arriver, tout ça.
S'il avait vraiment acheté une voiture.
Ouais. Puis après, j'allais partir tout seul avec ce 4x4, me balader au Mexique. Donc, je savais pas vraiment à quel point c'était dangereux. Lui, il me disait que c'était bon, qu'il y avait aucun problème. Et dans d'autres départs où c'est complètement, on se sent peut-être plus en vacances, où on a l'impression que ça, on est en sécurité, on va découvrir des choses certes, mais sans ce côté un petit peu danger. Donc moi, ça dépend vraiment, chacun des départs est différent. Mais pour moi, c'est une espèce de dynamique. Il y a un moment dans l'année, je sais que je pars, il y a un moment dans l'année, je sais que je reviens. Et puis pour moi, c'est un équilibre.
Le voyage a changé, Olivier, entre ta génération et celle de Sylvain ?
Je crois que fondamentalement, non. Bien, les outils ont changé, mais en même temps, c'est la passion qui nous anime. Et ça, c'est pas une question de génération. On a envie, on est attiré par l'autre, par le voyage. Et le voyage, il est ici, il est là-bas, il est partout. Donc si on est animé par cette flamme d'aller vers l'autre, de découvrir, c'est pas une question de génération.
Mais l'autre, il est pas toujours drôle, non ?
Moi, je pense que ça dépend de soi. Je pense que dans mon travail photographique, je me suis toujours attelé à montrer le beau et les gens positifs. Parce que c'est un parti pris. J'estime qu'on parle beaucoup de choses négatives de ce monde. Mais je ne peux pas cautionner ce regard-là parce que ça fait 40 ans que je parcours ce monde, 40 ans qu'il m'émerveille. Je suis émerveillé, comme disait Caroline, par la diversité de cette humanité. Et je n'ai pas d'expérience douloureuse en voyage. Je ne pourrais pas me permettre d'être négatif sur le monde. Et donc, il m'est important de témoigner de la beauté du monde et de la beauté de l'humanité. Je suis très positif sur le voyage.
C'est la musique d'un bateau qui passe pas loin.
C'était un disque.
Non, c'est le lac Léman qui est comme ça.
De ski nautique.
Si on mettait nous un disque avant de téléphoner à quelqu'un que tu aimes beaucoup, Madeleine.
Alors oui, une autre personnalité qui a souvent avancé avec nous dans cette émission, c'est Sarah Marquis. Sarah Marquis, sauvage par nature. On se souvient qu'elle a fait et qu'elle le raconte dans son dernier livre, 3 ans de marche extrême en solitaire de Sibérie en Australie.
Voilà, on va l'appeler pendant que le disque tourne.
Thank you.
C'est Claire Diterzy qui chante. C'est encore un de vos choix, de voilà. Tes choix, Madeleine. Mais on se dit tu et vous.
On va se dire tu. On va plus tricher. Ce qui est beau, c'est que on travaille avec des programmateurs qui nous connaissent au fur et à mesure. Ils choisissent et puis voilà, quelquefois on choisit ensemble. Et François Piton nous a préparé un programme sans nous consulter. Et vraiment, tous les titres, on ne les passera pas tous parce qu'il y en a 15, tous les titres sont magnifiques.
Ce sont des titres que tu aimes.
C'est beau, cette complicité à la radio avec les équipes.
Alors toi, tu as des complicités avec beaucoup de gens à la radio. Il y a ce qui se passe à l'interne et puis aussi, il y a les liens que tu crées avec les invités que tu reçois. Olivier, c'est un bon exemple. Caroline aussi. Et puis, il y a Sarah Marquis, pour laquelle tu as une tendresse particulière.
J'ai une tendresse particulière parce qu'elle m'épate avec ses exploits. Est-ce qu'on l'a en ligne, Sarah Marquis?
Allô, bonjour Madeleine. Bonjour Madeleine.
Il y a Martine aussi.
Bonjour
Sarah. Alors Sarah, on avait rêvé que vous soyez là aussi, que tu sois là aussi. Mais là, tu es en Espagne parce qu'il y a une urgence. Il y a une parution qui aura lieu en septembre. Tu n'en es qu'au début et il y a déjà 5000 livres commandés. Donc quelques minutes pour vous, pour nous, et après tu recommences à écrire. C'est bien ça?
Oui, c'est un petit peu ça. Je suis dans le nord de l'Espagne, perdue en Asturie, pour me concentrer un maximum pour pouvoir sortir ces mots qui font partie des feelings de ma dernière expédition. Voilà.
Est-ce qu'on redit en deux mots la dernière expédition pour les gens qui ne te suivent pas forcément, Sarah?
Mm-hmm. Donc, pour moi, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que je marche à travers la planète. Et puis, plus précisément, ma dernière expédition était de... C'était en fait un rêve que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, mais je me suis jamais sentie prête pour faire cette expédition. Et quand je suis rentrée de mes 3 ans de marche, c'est-à-dire de où j'ai marché de Sibérie en Australie, eh bien j'ai émis l'idée que j'allais peut-être pouvoir faire face à ce rêve, qui était de me faire déposer en hélicoptère dans le nord-ouest de l'Australie, dans une région les plus retirées de cette planète et les plus sauvages de cette planète. Et puis de survivre comme les aborigènes ont survécu depuis des années. Donc c'est non seulement une découverte du terrain, des techniques, une maîtrise des techniques aborigènes de survie, mais c'est aussi une découverte, une foi en soi par rapport à ces capacités qu'on a toutes et tous de retrouver ses instincts primaires.
Enfin, qu'on voilà, a toutes et tous, que... surtout vous, Sarah, hein, quand même, disons. Alors, justement, le départ d'un voyage comme celui-là, Sarah, celui-ci, là, le dernier, c'est anxieux. Mm-hmm. Oui, c'est anxiogène. Ouais.
On l'a dit sur votre bateau, on a entendu vous inviter. Chaque départ est un petit peu différent et on attend quelque chose de différent de chaque départ. Mais celui-ci, en l'occurrence, c'était une appréhension, une joie, une excitation qui bouillonnait en moi depuis tellement longtemps. Mais en même temps, c'est un petit peu comme si vous êtes en haut d'un immeuble de 50 étages et puis vous sautez, vous n'avez pas de parachute. Il faut juste se sentir prêt à un moment donné et croire en soi-même. Et ce moment, ce pas à faire dans cette zone d'inconnu, il est énorme. C'est le pas le plus difficile à faire. Et ce qu'on ne nous apprend pas, en général, c'est d'être brave avec soi-même. D'être face avec soi-même et d'être brave avec soi-même.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, d'être brave avec soi-même?
C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut se faire confiance à un tel point. Il faut croire que l'univers est en nous et que si on a besoin de quelque chose, il n'y a plus qu'à puiser à l'intérieur de ce qu'on a besoin.
Donc, il y a comme un point de non-retour, mais avant, il faut se lâcher, il faut se balancer.
Alors, il y a un lâcher-prise qui est indispensable. On l'a entendu chez vos invités. Ils changent de vie. On a entendu le mot changer de vie. On revient peut-être pas. Et en même temps, il y a aussi l'écho de vos gens, des gens proches de vous, l'écho de vos familles, des familles autour de moi.
Qui vous disent quoi, Sarah? Qui vous disent quoi?
Alors, moi, je suis assez focus dans ma démarche. Donc, c'est-à-dire que je renonce ma prochaine destination, je renonce où je vais à partir. Et puis après, je les écoute, mais d'une petite oreille, parce qu'il ne faut pas non plus que je prenne leur peur sur moi. Je suis mon chemin, je suis ma voie, et c'est toujours avec eux dans mes chaussures, de toute façon, parce qu'ils font partie inconsciemment de toutes mes expéditions, de toute façon. Et j'aimerais dire, Madeleine, que pendant toutes ces années où on a papoté au micro, quand même, tu nous as fait parler, nous tous, sur ce bateau et tous les aventuriers possibles en Suisse romande et même hors frontières. Mais moi, j'aimerais bien une fois t'amener avec moi. Comme ça, tu pourrais un petit peu vivre, balader ton micro en réalité sur le terrain. Et je pense que ça va être possible maintenant.
Mais tu l'emmènerais où, Madeleine?
Alors, ma prochaine expédition, par exemple, je pense que ce serait bien qu'elle vienne me dire bonjour.
Bon, alors, je le dis publiquement, là, Sarah, c'est bon.
Ah ouais.
Je viendrai.
Ouais. Alors, voilà. Parce que, il faut que je vous raconte une petite histoire avec Madeleine. C'est qu'à chaque expédition, elle a toujours un peu envie de venir. Et la dernière en date, elle m'a dit, je viens. Et puis, j'ai toujours pas vu Madeleine avec des mouches et puis un petit peu de chaleur. Donc, je profite de cette occasion pour être sûre qu'elle va venir la prochaine fois.
Mais cette fois, ça va être la bonne parce que j'aurai du temps. Mais tu ne sais pas à quoi tu t'exposes parce que, tu vois, je vais devoir prendre mes cannes et mes grosses chaussures. Hein.
Madeleine, t'inquiète pas, tout va bien se passer.
Ok, je le dis à tout le monde là. Je te
rejoins.
Voilà,
c'est fait.
Merci beaucoup, Sarah. On attend avec impatience, et là, ce sera chez Martine, à l'apparition du livre qui s'appelle en anglais déjà, il y a déjà le titre, Dropped in the Wild Corner, c'est ça?
Voilà, c'est Dropped into the Wild Corner, et le titre du livre, ce sera très facile, c'est Instinct.
Bon, tu prendras soin de Madeleine quand même, parce qu'elle aime assez le confort, non?
Non, mais il faut qu'on parle, oui.
Elle va me faire un stage de formation. Merci beaucoup, Sarah, en tout cas, et bonne suite pour l'écriture du livre.
Merci, je vous embrasse tous.
On t'embrasse aussi. Caroline Rigel, pour vous aussi, les proches, c'était un frein possible à votre envie de voyage, c'est-à-dire qu'ils vous transmettent leur peur?
Mais là, moi, je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Je trouve que c'est très beau quand elle dit qu'à la fois on les porte avec soi, à la fois faut les écouter de trop près. Parce que la première fois que j'ai fait, mon premier grand voyage à travers l'Asie, où c'était un petit peu plus, je m'exposais un petit peu plus, je prenais quand même un petit peu plus de risques que ce que j'ai fait avec les nonnes, où là c'est plus un épuisement moral parce qu'on va porter, on va gérer, on va. Mais c'était
là,
pas du tout la même.
Il faut dire que c'était un voyage à travers toute l'Inde avec une douzaine de nonnes qui n'avaient jamais quitté
Mais
les
premiers voyages, j'avais traversé l'Asie seule, à dos de chameaux, d'ânes, j'avais traversé le désert de Gobi, longé la chaîne des Kunlun dans l'ouest de la Chine, entre le Tibet et le Taklamakan avec un
Lucas,
âne.
Première catégorie.
Oui, ça c'est la première catégorie. Ça. Ouais.
J'avais longé le Gange sur une bicyclette indienne pendant la mousson jusqu'au Bangladesh. Donc c'est vrai que quand on annonce ça, quand on a 30 ans et qu'on annonce ça à ses parents, je pense que c'est quand même un petit peu dur pour eux de comprendre qu'on veut partir seul 2 ans faire ce genre de choses. Et c'est pour là, je retrouve vraiment ce qu'elle dit, c'est en soi, on a l'impression qu'on a toute la force de l'univers en soi et qu'on va le faire et qu'on peut le faire. Et ça, c'est pas tous les instants de sa vie qu'on a ça, qu'on a cette force, qu'on la sent. Ça se travaille, c'est quelque chose qui
Et c'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que c'est vrai qu'on fait une émission de radio, sur le lac Léman, puis qu'il y a plein de petits bateaux qui sont mis autour, qui, à mon avis, savent qu'ils passent à la radio s'ils crient très fort. Donc on leur dit bonjour. Et puis ça me donne une bonne occasion de parler avec Sylvain de ce qui se prépare au bord du lac Léman pour l'été. Parce que toi, quand tu ne voyages pas, tu fais voyager ceux qui ne partent pas.
Voilà, durant tout l'été, on met la mer à disposition des Lausannois avec un événement qui s'appelle Lausanne sur mer. L'idée, c'est pour toutes les personnes qui partent pas en vacances, on crée une station balnéaire avec plein d'activités nautiques, des initiations. On a du wakeboard, du paddle, du kayak, du mayak, plein d'activités aussi sur terre pour les jeunes et les moins jeunes.
C'est quoi le mayak ?
Alors le mayak, c'est la fusion d'un kayak et du paddle. Donc on peut être soit debout, soit à genoux, soit assis. Je les ai encore jamais vus et ils arrivent demain.
Alors ça va commencer demain, ça sera cet été aux Pyramides à Vidi, pour ceux qui ont envie d'être un peu au bord de la mer sur le Léman. On parle des projets encore, Madeleine?
J'ai un blanc là.
Peut-être
un disque, non?
On met de la musique, plus fort que nos voisins.
Plus fort que les autres.
Je serais pas un peu émue, Madeleine?
Oui, un petit peu.
À la place du disque, tu pourrais pas nous parler un peu de toutes ces années que tu as passées?
Oh non.
De tous ces gens que tu as fait vivre, interviewer ce soir.
On écoute un disque?
J'ai l'impression qu'elle botte en touche.
Ouais. Non, elle est émue.
Quel disque, Madeleine?
Suivant d'Alice.
Merci Didier d'envoyer le disque. C'était les Pink Martini sur la première et vous écoutez Détours. C'est une émission spéciale que nous faisons depuis un bateau, un voilier sur le lac Léman. Alain, vous êtes en train de faire quoi dans mon dos?
Je suis en train de dérouler le foc pour commencer à avancer et ne pas arriver sur la plage.
Ah d'accord, on risque un peu quand même de toucher le bord. Lucas, on parle de voyage, parce qu'il y a Lucas Torrent avec nous.
Oui. Hein.
On a intégré Lucas.
On lui a volé sa tranche.
Je vous l'ai donné avec plaisir.
Bon, c'est bien. Et puis surtout, on est ensemble.
Bah oui, et puis moi j'ai dit je viens, parce que vous m'avez promis qu'on allait nager avec les dauphins.
Oui.
J'aimerais savoir à quel moment ça se passe, parce que c'est
je
quand même
bientôt. Je pense à 16h30.
Et on avait dit, si on nage pas avec les dauphins, alors on fait naufrage.
Oui, ça sera
moi,
à 16h30 alors.
Je compte sur Monsieur Cortési pour 16h30, d'accord. Parce que ça c'est la thématique des attentes à part ça. Dans le voyage, dans les départs, faut faire attention à pas trop fantasmer le périple, à pas se mettre une trop grosse pression. Hein, vous projetez pour vos vacances en Bolivie de rire avec l'autochtone tout en écoutant de la flûte de Pan, et au final, quand vous vous retrouvez devant un ragoût de cochon d'Inde sur une aire d'autoroute près de San Benito sous la bruine, eh ben, il y a comme un malaise, vous voyez, c'est la différence entre l'attente et... C'est comme les passagers du Titanic. Leur attente, c'était d'arriver à New York, et eh ben, ils ont été tous vachement déçus. Il y a eu des traumatismes psychologiques. Par contre, l'immense avantage de passer ces vacances à Morges, c'est que généralement, on est rarement déçus, vu qu'on a des attentes modestes. Et voilà, c'était important de parler de morge dans cette émission. L'important, c'est d'être ouvert d'esprit.
Vous avez fait un pari en disant vous.
Non,
si
pas
vous
du tout.
Morge, vous
pas
avez...
du tout.
Non,
il faut être ouvert d'esprit, Madeleine, quand on voyage. Oui, mais il faut partir perdant. Le problème, c'est quand on part en couple, en partant perdant, puis on passe toutes ses vacances à dire à son conjoint que de toute façon, ça va être pourri et que pour l'instant, on a de la chance, c'est pas non plus une bonne technique.
Donc, il faut faire comment?
Ben, il faut trouver le bon équilibre. Vous voyez, par exemple, moi, j'étais venu ici nager avec les dauphins.
Ouais.
Et ben, si au final, je nage avec des filets de perche, ben, moi, je suis quand même content.
Le message est passé.
Oui.
Qu'est-ce
bon,
qu'on
Madeleine,
doit faire
Madeleine, elle ne fait plus rien aujourd'hui.
Elle navigue.
Elle se laisse naviguer, mais c'est bien.
Ah ouais, c'est agréable. On n'a pas préparé du tout cette émission aujourd'hui. C'est la première en 42 ans. Tout arrive.
C'est pour ça que c'est une émission spéciale.
Exactement. Qu'est-ce qu'on fait là,
Madeleine? Vos prochains départs, Olivier et Caroline.
Qui part le premier?
Ben, je crois que c'est toi et tu vas un tout petit peu plus loin que moi, mais on sera voisins.
Tu vas où?
Ben, aux Anscars.
Tu vas aux Anscars, évidemment. Alors, on sera voisins de 2000 km. Oui,
moi, oui, c'est vrai que le Tibet est grand.
Demain,
quand
même. Je vais à l'extrême Tibet, côté est, à l'extrême de l'autre côté, donc du Zanskar.
Dans le
Cam. Oui, dans le Cam. D'accord. Et l'Amdo. Et donc, on sera tous les deux dans notre monde tibétain, voilà, qu'on aime tant, toi et moi, mais on sera à 2000 km l'un de l'autre.
Caroline, est-ce que c'est faux de dire que Olivier Folmin n'est pas pour rien dans cette vocation pour le Zanskar?
Eh bien, je crois que c'est pas faux du tout. Hein. Olivier a quand même inspiré, peut-être une génération, deux, trois, je sais pas, mais je pense qu'il a quand même inspiré énormément de monde avec ses fabuleuses
et son premier voyage
photographies. Et je vais même raconter ça plus en détail, puisqu'en fait, moi, j'avais donc passé une année en forêt vierge gabonaise sur un chantier de barrage. Et j'étais sortie de ma forêt vierge pour aller faire 2 semaines de montagne et gravir le Mont Blanc. Et je ne me souviens plus, par contre, si c'était avant ou après le sommet du Mont Blanc. À Chamonix, dans la librairie, j'étais tombée sur « Si loin des hommes, si près des dieux ». Et je me souviens que j'étais en larmes devant les photos. C'est comme s'il y a tout d'un coup quelque chose qui vous parle. Ça s'explique pas. Et je préparais déjà mon voyage à l'époque. Et je savais que j'allais aller là-bas. Je savais que un des rêves les plus ancrés était l'hiver himalayen. Et voilà. Donc,
merci Olivier.
Alors, ce prochain voyage, Olivier, c'est toujours l'appareil de photo, capter des regards mentalos, comme les décrit Lucas au début de l'émission.
Oui, c'est pour faire plaisir à Lucas. Oui, bien sûr, je ramènerai des yeux verts, absolument, oui. Je sais pas ce que je ramènerai. Je me réjouis de savoir ce que je ramènerai. Des fois, j'ai aussi une appréhension. Ramener des belles images, ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de la chance aussi. Mais j'aime ça. Je pars demain, j'atterris à Pékin, je vole à Chengdu, ensuite à Yushu, en terre tibétaine. Tout ça c'est organisé. J'ai mon hôtel à Chengdu, j'ai mon hôtel à Yushu et après je sais pas. J'ai aucune idée. Je vais chercher à aller rejoindre les alpages au plateau tibétain. J'aime partir sans le préparer parce que je trouve que quand on ne prépare rien, quand on laisse la vie finalement nous offrir, on s'offre à la vie, mais finalement elle est pleine de cadeaux. Donc je me réjouis de savoir les cadeaux déjà d'avance. Hein. Et comme on disait, finalement il y a aussi des frustrations au voyage, des fois où on n'est pas forcément déçu, mais parce que j'ai pas d'attente particulière, je me réjouis.
Mais c'est quoi, par exemple, Olivier, comme frustration?
Et frustration, pour moi, c'est de ne pas ramener des images qui m'émerveillent. Des contacts, je risque d'en avoir, mais en même temps, si les gens n'ont pas envie d'être photographiés, je ne les photographierai pas.
Ça y est, les vagues. Alors la tempête.
Par contre, là où j'ai...
Les vagues du bateau de la CGN ou c'est parce qu'on a mis les voiles?
Le bateau de la CGN qui vient de passer. C'est pour ça que...
Non, et ensuite je rejoins le monastère du maître de Mathieu Ricard. On se rejoint avec Mathieu là-bas parce qu'il y a une grande cérémonie. Et ça, je me réjouis beaucoup, beaucoup d'y participer pour me relier au monde bouddhiste tibétain. Oui.
Une cérémonie en l'honneur de quoi?
C'est une célébration qui appartient, qui est propre au monastère.
D'accord.
Alors, Mathieu Ricard, on va entendre brièvement sa voix dans la demi-heure qui va suivre, parce que bon, Madeleine est très pudique, elle a pas trop envie qu'on parle d'elle durant cette émission qui est la dernière, mais on va quand même le faire un petit peu entre 16h et 16h30. Peut-être que tu nous raconteras de trois choses. En tout cas, Olivier, tu as envie de dire des choses,
oui,
que tu nous diras tout à l'heure.
Oui.
Caroline peut-être aussi.
Pauvre Caroline.
Lucas, c'est sûr, parce qu'il a aussi travaillé beaucoup avec Madeleine quand tu faisais les billets dans Rien n'est joué.
Oui, hilarant.
Exactement.
Hilarant.
Oui, hilarant. Désopilant. Oui, j'ai aussi des choses à raconter sur Madeleine, bien sûr.
Mon Dieu.
Dans la demi-heure qui vient.
Vous voulez pas que je prenne la barre, monsieur Cortési.
Donc, en fait, en résumé, enfin, Sylvain, je sais pas, tu as peut-être quelque chose.
Sylvain, il est jeune.
Mais justement.
Mais oui, bien sûr, j'ai. Je vais aussi transmettre tous mes vœux pour cette retraite magnifique. Je suis sûr que ça va être une nouvelle étape pleine de joie, de bonheur.
Je suis sûr que tu as
plein de projets.
Tu sais ce que je croyais que tu allais dire. Moi, j'écoute pas, mais ma maman et ma grand-mère t'écoutent beaucoup.
Et là, pour l'instant, tout le monde écoute les infos puisqu'il est 16h. À tout de suite.
RTS Info, Frédéric Pfeiffer.
Après le lac, retour à Wimbledon sur le cours central, le seul à l'abri de la pluie, où Stan Wawrinka fait face à l'Argentin Juan Martín Del Potro. Et Laurent Bastardo, si le Vaudois a bien entamé cette rencontre en gagnant le premier set, le deuxième a été nettement plus compliqué.
Effectivement, une victoire 6-3 dans la première manche, un très bon Stan Wawrinka, près de 90% de points gagnés sur ses premières balles. Et puis ensuite, eh bien, on a retrouvé le Stan un peu des mauvais jours, parce que Del Potro aussi est de retour aux affaires après 3 ans où il a connu pas mal de pépins physiques. Eh bien, l'Argentin a parfaitement négocié cette deuxième manche en remportant donc ce deuxième set 6-3. Ça devient beaucoup plus serré maintenant parce que les 4 premiers jeux ont été marqués par 4 breaks, 2 de chaque côté. Il y avait donc 2-2. Et ensuite, les joueurs ont systématiquement gagné leur service et Wawrinka, pour l'heure, mène 5-4 dans la troisième manche. On précisera également que le soleil est de retour à Wimbledon. Les courts ont été donc découverts. Baczynski devrait jouer en match numéro 2 sur le court numéro 12, alors que Roger Federer, lui, évoluera sur le coup de 19h environ, ici même, sur le court central de Wimbledon.
Merci Laurent Bastardo en direct de Wimbledon et le match Wawrinka, donc Del Potro, c'est à suivre actuellement en direct sur RTS2. La Cour constitutionnelle autrichienne annule le résultat de l'élection présidentielle après avoir relevé de nombreuses irrégularités. Ni fraude ni manipulation du scrutin du 22 mai n'ont été constatées, mais une accumulation de négligence dans le dépouillement de certains bulletins de vote. Une présidentielle qui a vu l'écologiste Alexander Van der Bellen battre de peu le candidat d'extrême droite Norbert Hofer avec 50,3% des suffrages. Cette décision de la Cour constitutionnelle ouvre la voie à un nouveau deuxième tour de la présidentielle en automne prochain. Conséquence du Brexit, la compagnie aérienne britannique EasyJet demande un certificat de transporteur aérien, un certificat délivré par l'aviation civile de chaque pays qui doit lui permettre de voler à travers l'Europe comme elle le fait aujourd'hui, mais sans payer de taxes supplémentaires. EasyJet, qui ne prendra pas de décision sur son siège social avant que les nouvelles relations entre Londres et Bruxelles ne soient précisées. Le nombre de migrants morts en Méditerranée atteint un record, près de 2900 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée au cours des 6 premiers mois de l'année, les plus meurtriers jamais enregistrés, souligne aujourd'hui l'Organisation internationale pour les migrations. Le nombre de décès a presque doublé par rapport au premier semestre de l'année dernière. Depuis le 1er janvier, 225 665 migrants ont atteint les côtes italiennes, grecques, chypriotes ou espagnoles. Dans la seule journée d'hier, 5000 migrants ont été secourus en Méditerranée au cours d'une quarantaine d'opérations. Et en Suisse, toujours pas de consensus sur l'application de l'initiative contre l'immigration de masse. Les membres de la commission des institutions politiques du National n'arrivent pas à se mettre d'accord. Son président, l'UDC Einsprant, est venu le dire tout à l'heure devant la presse à Berne. Il a précisé que la situation n'était pas bloquée et que cette commission devait trouver une solution d'ici le 2 septembre, même si elle ne sera pas unanime. Des averses, c'est une tendance aux orages dans toutes les régions pour clore cette belle journée ensoleillée. La journée de demain sera grise dans l'ensemble. Seules les régions de plaine bénéficieront d'éclaircies. Les averses se produiront plus volontiers en matinée. Elles se prolongeront dans les Alpes l'après-midi en prenant un caractère orageux. Les températures seront de 16 degrés à l'aube. Elles atteindront 23 à 25 l'après-midi. Les journées de dimanche, lundi et mardi seront belles et de plus en plus chaudes, mais avec un risque orageux en nette augmentation mardi.
Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.
Infotrafic RTS.
Plusieurs accidents provoquent des ralentissements ou des bouchons sur les axes suivants, sur l'axe Yverdon-Lausanne entre Yverdon-Sud et l'échangeur Desserpiter en direction de Lausanne et sur le contournement de Genève entre Mérin et le tunnel de Vernier en direction de la France. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, un bouchon de 4 km s'étend entre Amsteg et l'entrée nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, ce qui correspond à un temps d'attente d'environ 40 minutes. En sens inverse, des colonnes de 2 km sont également constatées à l'approche de l'entrée sud du tunnel en direction de Lucerne, soit un temps d'attente d'environ 20 minutes.
Détour, Martine Galland et Madeleine Caboche.
C'est très étrange parce que c'est l'heure de Pantagruel et pourtant c'est l'indicatif de détour. C'est une émission spéciale aujourd'hui parce que c'est la dernière émission radio de Madeleine Caboche qui va changer de vie à partir de tout à l'heure, dans une demi-heure.
Et qui est ravie parce qu'elle part en même temps que Michel Drucker.
Le signe.
C'est un signe.
Alors pour cette dernière émission, on a choisi d'être sur un voilier qui navigue sur le lac Léman, bien entouré avec des voyageurs. Avec lesquels on a un lien particulier parce qu'ils sont venus régulièrement dans nos émissions, notamment dans des tours. C'est Olivier Folmy, c'est Caroline Rigel et puis c'est Sylvain Nicolier. Mais comme on est dans l'émission de Lucas Torrent, Pantagruel, en tout cas c'est l'heure, Lucas est avec nous.
Oui.
Et Madeleine, tu n'avais pas envie qu'on parle de toi dans cette émission, mais quand même le faire un peu.
Parce qu'on est un peu coquin, oui. Donc je faisais des portraits pour vous, hein, on va dire, comme à la radio, ou pour Alors, je faisais des portraits pour toi, rien n'est joué. Et c'est vrai que là, j'ai le plaisir de pouvoir te retourner, si tu veux, l'appareil en faisant ton portrait. Donc, Madeleine, déjà, comment ne pas évoquer dans ce portrait d'abord une de tes caractéristiques principales au début de ta carrière merveilleuse, ce coup de chaud que tu as collé à la Suisse romande et au-delà. Baisse un peu l'abat-jour, Blues in the Night. Madeleine Caboche, c'est la Barry White féminine de la radio romande. Hein. C'est la Marilyn Monroe de la glotte aguicheuse, la Ursula Andress de la séduction, sauf que t'as pas besoin de bikini, juste de ta luette que tu fais frétiller.
Et elle est belle, hein, elle est belle.
Très belle luette. Moi, je l'ai vue un jour, comme ça, au détour d'un, c'était des circonstances, mais il y avait une très belle luette. Baisse un peu l'abat-jour. L'abat-jour s'est vachement baissé, on peut vous le dire. Selon une enquête de l'Office fédéral des statistiques de 2014, plus de 262 437 auditeurs sont tombés amoureux de Madeleine Caboche. Donc 47% ont décidé d'un jour t'épouser. Eh bien, ils sont là aujourd'hui au débarcadère. Ils sont tous là, ils attendent l'arrivée du bateau et à 16h30, ils veulent tous t'embrasser sur la bouche. Madeleine Caboche, c'est pas seulement une voix sensuelle, si sensuelle que parfois les résistors, les postes de radio fondaient tout seul et le pop-corn s'auto-cuisait spontanément dans la cuisine.
C'est quoi?
Des trucs bizarres qui partent parce qu'on est sur un bateau donc tout n'est pas sous contrôle.
Les auto-cuiseurs.
Oui, alors là c'est le moment en plus où j'étais gentil donc c'est d'accord. Dommage. Madeleine Caboche, c'est pas seulement la grande professionnelle, la championne de l'interview, la record woman de l'instinct, la marathonienne de la découverte de talent. 12 personnes sur 13 à la radio ont profité de tes conseils. Et franchement, comme retraite, moi, je te conseille de faire jury à The Voice, parce qu'avec un instinct pareil, c'est sûr, tu vas nous trouver quelqu'un d'exceptionnel. Mais tu es aussi la femme la plus indécise de Suisse,
ah bon,
d'Europe et peut-être du monde. Si Madeleine Caboche vous parle un jour de l'achat éventuel d'un chalet à la Foulie, par exemple en 1982, alors n'ayez crainte, ne stressez pas, en 2047, elle hésitera encore pour savoir...
Bruxelles, la Foulie,
oui, il y avait plein d'idées.
Grignan, la Bretagne, ouais.
On raconte aussi que Madeleine Caboche n'aime pas trop conduire de peur quand il faut choisir en tournée à gauche et à droite de finir tout droit encastré dans un pylône, ce qui explique qu'elle n'aime pas conduire. Et puis alors c'était aussi très sympa de travailler avec toi Madeleine parce qu'il y avait ces fameux 15 secondes avant le début de l'émission, donc on est tous en régie, il y a le jingle de l'émission qui démarre et tout d'un coup tu hurles « Où sont mes feuilles? Où sont mes notes ?» Et nous on voit mais il reste 10 secondes, c'est horrible. Alors 17 crises cardiaques j'ai fait, 12 arrêts respiratoires, heureusement qu'on a des
parce
trucs.
Parce que c'est toi qui allais les chercher?
Non, parce qu'à chaque fois tu disais « Ah mais non, elles sont sous mon coude, et vous allez rire les amis, mais en fait c'était de la ruse, c'est ça, t'avais pas vraiment perdu, c'était de la ruse, parce qu'à chaque fois Tu t'en sortais avec plus que du talent, les feuilles de notes pas besoin tellement que t'avais bossé. En fait, maligne comme la fouine, finaude comme la renarde, hein. Avec une préparation sans faille et un instinct inoxydable. Donc toujours dans la terreur, mais en fait le fond était tellement solide qu'il aurait pu neiger des météorites, t'aurais fait une émission d'exception. Alors Madeleine, après cette émission, tu vas partir nager avec les dauphins vers l'horizon. Tu vas t'engager dans les flots déguisé en sirène et tu vas nager droit devant. Mais peut-être qu'après un moment, tu vas t'arrêter pour te demander si ça vaudrait peut-être pas mieux d'un coup de nager vers la gauche ou peut-être vers la droite ou peut-être plus... Ouais, non, peut-être arrêter. Et pendant que
ou
tu
alors
hésiteras...
faire de la montagne.
Voilà. Et pendant que tu hésiteras à moitié dans l'eau sur fond de coucher de soleil, te demandant si ce serait quand même pas mieux une hebdo, eh ben nous, on fera au revoir de la main avec émotion.
Merci Lucas. C'est vrai que l'hebdo, je l'attends depuis 40 ans. Hein.
Une mais émission bon. Par semaine.
40 ans d'émissions quotidiennes.
40 ans, 42 ans d'émissions quotidiennes. Et c'est vrai que je disais toujours, mais donnez-moi une hebdo, c'est quand même plus cool. Jamais.
Madeleine Caboche, tous les jours depuis 42 ans sur la radio, c'est impressionnant. On a essayé de résumer ça en 7 minutes.
Madeleine Caboche.
Madeleine, bien sûr.
Allez. Ah, on y va.
Baisse un peu la majeure, mais pas trop. Madeleine Caboche, Radio Suisse Romande 1.
Et ce soir, pour parler du cinéma et de la femme sous l'abat-jour, eh bien une répartition qui me semble tout à fait équilibrée, puisque nous sommes 6 nanas contre un seul mâle. Alors les 6 nanas, on va se présenter. Bon, alors Madeleine au micro.
Madeleine Caboche, productrice journaliste. La première émotion, bizarrement, c'est pas forcément la première fois qu'on est entendu par des auditeurs. Parce que ce qui me revient à l'esprit, c'est la première fois qui a été décisive dans le choix de ce métier. J'étais étudiante à Paris, dans une école de relations publiques, avec un professeur de cinéma extraordinaire qui m'avait fait croiser Romère, croiser Truffaut, Rivette, donc le goût du cinéma et le goût de l'audiovisuel, puisque cet homme-là organisait des stages dans les écoles. Et tout à coup, je me suis retrouvée à servir de modèle pour être filmée en train de faire une interview. J'avais jamais fait d'interview de ma vie, et je me suis retrouvée sous les feux de la caméra, dans un studio improvisé, en pleine nature, en face d'une paysanne, c'était dans la région bordelaise. Et la jeune fille d'alors, qui était une jeune fille timide, qui rougissait à la moindre alerte, tout à coup, en face de cette dame, à travers le filtre des caméras, d'un micro, bah, j'ai eu l'impression d'avoir été transformée par une fée.
Bonsoir. 11h. N'est-ce pas un peu trop tôt pour rencontrer Juliette Gréco?
Non, pas du tout, parce que c'est pas tôt. Enfin, si. C'est tôt dans la mesure où je ne dors pas, où je suis insomniaque. Quelquefois, j'arrive à dormir bien à partir de 7-8 heures du matin quand les bruits de la vie recommencent. Je crois que c'est le silence de la nuit qui m'empêche de dormir.
Avec un avion. Pour faire ton nid dans ton plafond, car là, ça a été pensé.
Ah non, là, avec ma petite panneau.
4 heures moins le quart du matin. Ah, je vais chanter une chanson. Si jamais ça tombe entre les mains. Il est dur de trouver une bande avec Caboche et Agueur.
À 4h du matin.
Dur, les gars.
Avec Jean-François Acker.
Quand il n'y a plus d'air, quand il y a trop de poussière dans les bars, quand il n'y a plus de goût dans ton petit noir, change de zinc, de carlingue, solitude, plein sud en altitude. Prends ton manche à balai, prends tes 15 000 à pied avec un avion. Un avion pour faire ton nid dans le plafond.
C'est le Diable au cœur jusqu'à 4h. Et aujourd'hui, dans le Diable au cœur, en direct, nous recevrons tout à l'heure dans deux chansons Sœur Emmanuelle. Vous savez, l'émission s'appelle Le Diable au cœur.
Le diable.
Le diable au cœur, oui. Ça va quand même.
Pas mal.
Dites-moi, on vous parlait tout à l'heure de tolérance et de respect de l'autre. Mais justement, il y a deux choses pour arriver à respecter l'autre. Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il faut aussi être en accord avec soi-même. Et c'est les deux choses les plus difficiles à réaliser, non ?
Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais eu peur de rien ni de personne.
Avoir peur, Madeleine. Se réjouir, Madeleine. Douter, Madeleine. Rire, Madeleine. Et oser balancer ses questions.
Vous avez aussi peur qu'au premier film, aujourd'hui, encore ?
Ah oui, heureusement, d'ailleurs.
Richard Boringer.
J'ai peur pour ouvrir une porte au cinéma. Les gens qui disent, oh, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire, il faut que j'ouvre la porte, que je dise bonjour. Je suis peinard, je leur dis, vous avez bien de la chance. Et puis, vous m'inquiétez.
Mais là, avec les films successifs, ça n'a pas fini par vous donner confiance.
Oh non, j'ai revu un petit extrait de L'Effronté cet après-midi et je trouve ça affreux.
Charlotte Gainsbourg.
Tout ce que je disais, ça sortait mal, c'était faux.
Mais alors, quand les autres vous disent que vous êtes extraordinaire, vous avez l'impression qu'ils vous racontent des bobards ?
Un petit peu.
Mais alors, est-ce que cette insatisfaction permanente qui fait qu'on peut considérer que c'est un métier dangereux, comédien ?
Samy Frey.
On risque de se perdre soi-même, ce qui n'est pas très grave, ça n'engage pas les autres.
Danger de se perdre, ça peut être un gros danger.
La vie, on naît, on grandit et on meurt. Bon, voilà, une grande banalité.
Fanny Ardant.
Mais ce que les gens font, ou ce qu'ils en disent, comment ils en parlent, à chaque fois ça devient quelque chose de particulier, avec quelque chose de... Les mots des gens font des couleurs très différentes.
Je vous racontais tout à l'heure à quel point le micro s'était maffé. Hein. J'avais l'impression qu'au micro, j'étais, et ça me dure toujours, hein, j'étais celle que je voudrais être. Et puis que dans la vie, c'était le vilain petit canard. Et puis que dès que le micro s'arrêtait, ça y est, je redevenais Cendrillon avec mes haillons, avec mes citrouilles, plus de carrosse. Poule sur un mur qui picore du pain dur. Voilà, c'est toujours Entrée publique en compagnie de Raymond Devos. Et quand on a un grand comique sous la main, on a toujours envie de lui demander si on peut rire de tout.
Quand on ne veut pas rire de quelque chose, c'est parce que c'est une honte. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir rire de tout. Je me moque de nous, de moi et des autres.
Quelquefois du percepteur.
Et quelquefois du percepteur parce que c'est un être à part. C'est vraiment un malade.
Les enfants du troisième, une émission de Madeleine Caboche.
Rien n'est joué.
Aujourd'hui, nous avions envie de vous faire entendre Mathieu Ricard. La journée, vous la structurez de manière fixe ?
Alors, il y a toutes sortes, bien sûr, d'exercices spirituels qui correspondent à différentes étapes dans ce processus de transformation.
Mais ce qu'on se dit, Mathieu Ricard, c'est « moi, j'y arriverai jamais ». Il faut du temps. On ne peut pas faire cette démarche que vous faites en n'étant pas un tout petit peu, à un moment donné, isolé du monde.
On peut faire de son corps un ermitage et de son esprit un ermite.
Il voudrait un essai de voix, mon réalisateur.
Avec un avion porte ton nid dans ton plafond.
C'est un son de merde.
C'est très laid de jurer à la radio.
Mais c'est bien, finalement.
Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'avoir ici à notre microphone
Madeleine Caboche.
On a fini.
On a essayé de résumer.
C'est toujours un peu
quelques
difficile.
Quelques décennies
hein,
en 7 minutes.
Ce serait écouté. C'est pénible, en fait.
Pénible, non, c'est pas pénible.
Un petit peu.
Pas pour les autres.
Hein. Cette insatisfaction, Madeleine, dont on parle ici et là, quand on évoque ton parcours professionnel, comment tu l'entends, comment tu le reçois ?
L'insatisfaction ? C'est vraiment une chose très lourde, dont je n'ai pas réussi à me débarrasser jusqu'à 64 ans.
Et c'est-à-dire aujourd'hui ?
C'est-à-dire aujourd'hui. Alors je sais pas, mon regret c'est que j'ai l'impression d'avoir transmis ça à mon fils, alors que je m'étais dit que j'allais essayer qu'il échappe à cette insatisfaction chronique. Mais alors ça doit être, je sais pas, je lui ai transmis ça par les gestes, par la voix. Il est aussi insatisfait que moi.
Moi, travailler à côté de toi, j'ai eu l'impression comme ça que tu te nourris beaucoup des autres et qu'à chaque fois, à chaque émission, c'est comme si tu jouais quelque chose d'extrêmement important. Et un invité rayonnant, il peut te donner de l'énergie pour plusieurs jours. Et à l'inverse, une émission ratée, ça te plombe d'une manière spectaculaire.
Et ça dure 15 jours, là. Bah oui, parce que c'est un échec quand même de pas avoir réussi à faire parler quelqu'un, de pas avoir réussi à montrer son meilleur côté, c'est un gros échec. Donc je le vis mal, oui, c'est vrai.
Dans ces cas-là, on fait un détour pour éviter le bureau de Madeleine. On la laisse
parce que ça fume.
Une autre chose qui me frappe, c'est que tu es emballée ou malheureuse. Et ça, c'est une chose que tu m'as dit souvent. Si on fait comme ça, t'es malheureuse. Puis je dis non, mais ça me rend pas malheureuse. Et c'est comme si il y a une envie de bonheur, de le vivre, de le partager, et donc de le créer, et que tu as cette responsabilité de le créer.
Bon, voilà.
Ce qui explique peut-être l'indécision légendaire, parce que quel
enjeu. Mais en fait, c'est rigolo, parce que je me sens, effectivement, c'est légendaire, mais je me sens pas indécise. C'est que j'ai besoin d'expérimenter, comme ça, un peu toutes les choses, mais au fond de moi-même, je sais assez vite ce que je vais choisir. Mais je tâtonne, peut-être pour le plaisir de tâtonner, tout en sachant que la chose va arriver et que ce sera ça, celle-là, la vraie.
Est-ce qu'il y a une histoire que tu as envie de nous raconter?
Oh ben, il y a un gros échec, un gros regret. C'est que j'adore des proches, comme vous tous, je
Pierre
l'espère.
Des proches, oui.
Et puis, j'avais réussi, tant bien que mal, à décrocher un entretien. Et bon, il m'avait reçu un peu comme ça, goguenard, assez sur les, enfin, voilà, pas très agréable. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai vraiment gagné, on s'est gagné. Et c'était une interview magnifique que personne n'entendra jamais parce que ça n'a pas enregistré.
Et j'étais à la radio ce jour-là, c'était l'époque des Nagra, et sur la bande, on entendait très fort et c'était sa dernière interview.
Et oui, c'était sa dernière interview. Ça reste un chagrin. Oui, ça reste un chagrin.
Et un grand bonheur.
Un grand bonheur, c'est Higelin qui chante que pour moi dans 2 heures d'émission le soir dans Blues in the Night, en s'adressant à moi sur un grand piano à queue dans un grand studio, et où il dit je chante pour Madeleine ce soir. Ça.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal.
C'est un métier de privilégié, c'est un beau métier.
Ben oui, c'est probablement pour ça qu'on est un peu triste de le quitter, parce qu'à la fois c'est vrai que c'est un espace de liberté qui va s'ouvrir, mais toutes ces portes comme ça sur le monde du cinéma, sur le monde de la littérature, de la chanson, ben voilà, ils ne s'ouvriront plus. Alors il y aura plein d'autres belles rencontres possibles hein, dans le monde, pas besoin d'être chanteur ou écrivain, mais je sais qu'il y a des portes qui vont se fermer. Mmh. Et ça, voilà, ça rend triste un peu.
Bah moi, je dois te dire que j'ai eu le trac aujourd'hui comme jamais, que j'avais envie de te dire 1000 choses, de parler de toi, de faire des petits papiers. Et on n'a jamais pu réussir à préparer cette émission, donc on l'a fait comme ça. Mais ce que j'ai envie de dire quand même, c'est de parler de ton sens aigu de l'amitié, du plaisir qu'on a tous à travailler avec toi, de ta curiosité qui nous inspire, et puis l'envie de te dire merci au nom de tous les auditeurs pour les rencontres, pour les rêves, pour les voyages que tu as permis et qui sont portés par ta voix qui est tellement charmante et qui est aussi aussi vive et jeune que ta manière d'être en lien avec les gens, avec tes copines qui ont parfois 25 ans, 30 ans, et on t'aime et on a ce rapport de copine avec toi à la radio, et j'imagine que les auditeurs l'ont aussi. Et
puis, en tout cas, Martine, ça va être un sacré viatique pour mon chemin de troisième vie, tout ce que tu viens de me dire.
Ben voilà, moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est que tu auras du plaisir à nous écouter, puisque Détour va continuer à la rentrée, que tu auras de la joie, que tu n'auras pas de nostalgie. On avait dit pas d'émotion aujourd'hui,
tiens bon.
Promis. Donc, on va essayer de, quand tu écouteras la radio, de ne pas te faire regretter de nous avoir formés. Ben, c'est vrai ce qu'il disait, Lucas, on est beaucoup à avoir appris la radio avec toi. Puis moi, je te souhaite que ta nouvelle vie soit à la hauteur de tes aspirations, c'est-à-dire pleine, heureuse, légère, drôle, intéressante. Et qu'elle t'emballe, Madeleine.
Elle va m'emballer. Et je vais vous lire cette phrase qui est dans un très beau journal qui s'appelle Le Journal des Bains, qui est un journal qui tourne autour du bain des Paquis à Genève. J'ai lu cette phrase et je me suis dit que je voulais être dans le jabot d'un pélican. Cette phrase est la suivante. Je m'étais promis un matin de grand air de te coucher dans le jabot d'un pélican et de t'emmener loin des îles de nos jeux. Alors voilà, je veux être dans le jabot pour continuer à vivre heureuse.
Olivier Folmy.
Moi, j'ai retardé mon départ à demain. Je pars en Tibet demain. J'ai retardé parce que je voulais participer à la dernière émission de Madeleine. Parce que je dois reconnaître que c'est grâce à Madeleine que je suis photographe, hein, que j'ai pu me faire connaître. Si, c'est en grande partie grâce à toi. Parce que tu m'as permis de partager ma passion, de communiquer avec les auditeurs. Et la connivence que nous avons, toutes ces émissions que nous avons faites, hein, c'est grâce à ta personnalité, c'est grâce à ton regard. C'est toi qui me permettais d'aller au fond de moi-même. Et donc, je tenais à le dire, hein, ici, à l'antenne. Et puis, comme tu disais très bien, Martine, eh bien, au nom de tous ces, comme disait Luca, ces centaines de milliers d'auditeurs, d'auditrices qui sont amoureux de toi, Madeleine, eh bien, tu me rajoutes à la liste. Tu me rajoutes à la liste. Moi, je... Et je pense que, comme disait Martine, au nom de tous les auditeurs, tous les auditrices qui t'ont écouté au cours de ces 40 ans, qui nous écoutent maintenant, au nom de nous tous, j'aimerais te dire merci, merci, merci. Et puis moi, il y a 40 ans que je n'ose pas te le dire et c'est le dernier moment, mais j'aimerais te dire merci, bravo et je t'aime. La, 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 la.
Oui.
Madeleine aime bien ça.
À Paris, que fais-tu, Madeleine? Et que fais-tu, mon amour, loin de moi?
Mon premier amour, ce fut Madeleine. Elle usait toujours d'un sourire que j'aime tout.
Madeleine, I need your love, won't you give your
pied maritant.
Madeleine, un pied
maritant. Un pied
maritant. Un pied
maritant. Un pied maritant. Madeleine, un pied maritant.
Essayer de réunir toutes les Madeleines et avec le micro ouvert, c'est encore mieux pour en parler.
Puis on est en train de repartir, monsieur Cortési.
Alors on va faire un opanage, c'est-à-dire un changement de direction pour se rapprocher du port. Grande manœuvre.
Changement de direction, Madeleine.
Changement de direction, le départ vers une autre vie, voilà. Monsieur Cortési, vous écoutez la radio à 3h l'après-midi?
À 3h l'après-midi, non, je suis souvent sur l'eau, malheureusement.
Tu remarques, Martine, comme elle on s'en rend presque pas compte, mais elle est quand même en train un petit peu de changer l'attention qui était sur elle vers le... Ça, c'est, on voit la grande professionnelle.
Bon, et puis Lucas, qu'est-ce que vous allez faire de votre été?
Mais moi, je suis pas là pour parler de moi.
Mais moi non plus. Bon. Non, ce qu'il faut faire, c'est remercier aussi toute l'équipe.
C'est vrai.
Parce qu'on a des super réalisateurs qui réalisent des reportages. On a beaucoup une jeune équipe de réalisateurs et ça c'était un beau moment de ma vie de finir finalement en rencontrant des jeunes gens qui sont au tout début de la page blanche et ça c'était vraiment un cadeau.
Et là ce sont plutôt, tu parles des reporters voilà. Qui nous proposent des voyages dans des tours tous les jours. C'est vrai que t'as passé beaucoup de temps aussi
au téléphone
à dire
eux,
mais plus comme ça, ouais. des images.
Et ça c'était vraiment un cadeau quoi, vraiment. De se quitter comme ça.
Mais bon. la voix que tu donnes à tous ces gens qui courent le monde, qui regardent le monde, cette voix, elle permet de partager aussi ces regards. Et c'est quand même une voix extrêmement généreuse. Moi, je pense très sincèrement que l'amour de l'autre, la générosité, l'enthousiasme, la bienveillance, tu es tombée dedans quand tu étais petite. Et donc... ce qui t'attend va être encore plus beau que ce que t'as vécu. Et on s'en réjouit, on espère en faire partie.
Mais en fait, vous savez pas, peut-être que je suis odieuse et insupportable et que je vais vieillir comme une teigne désagréable.
Madeleine, depuis 40 ans quand même, on dit toujours qu'il n'y a pas une femme qui réussit sans un ombre, sans un homme derrière, ou vice-versa. Et je crois qu'il faut quand même rendre honneur à ton mari, à Yvan.
Oui, ça c'est vrai.
Aussi,
ça je fais encore je fais encore le dire parce que c'est vrai que voilà, c'est une passion cette radio. Donc de vivre avec une femme qui a cette passion qui lui mord le ventre quelquefois le soir, le samedi, je trouve qu'il faut être costaud. Et il est costaud mon mec.
Oui, il est costaud. Mmh. Mais je crois aussi qu'il y en a un qui est costaud, c'est Antonin, c'est mon fils. Il est avec nous.
Mais tu ne vas pas réussir à le faire parler.
Ce serait bien, Antonin, que tu dises un dernier mot pour cette dernière émission à ta maman.
Non, mais je sais que tu appréhendes quand même beaucoup cet arrêt ou cette quelque chose, mais je sais aussi que c'est un nouveau départ et je te donne une semaine pour te trouver 1 milliard de nouveaux projets. Et que t'es tout le temps à organiser plein de trucs et je pense pas que ça va s'arrêter aujourd'hui.
Merci Madeleine. Merci pour
merci,
tout.
Madeleine. Merci Madeleine.
Et bon vent.
Et merci aux auditeurs aussi de nous avoir suivis.
Merci aussi.
Est-ce que Pierre-Philippe est là déjà?
Oui, il est là.
Pierre-Philippe arrive généralement à la toute dernière seconde.
Non, je suis là.
Depuis l'ascenseur, donc là.
Non, je suis là.
Parce que la notion du temps quand on est sur le bleu du démon, c'est compliqué.
C'est un petit peu plus difficile, mais.
Apparemment. Enfin...
Tu es déjà arrivé en retard à une émission, Madeleine?
Oui, une fois. J'étais en Bourgogne et on était parti très tard et j'entendais.
Je suis là,
les animateurs qui disaient, eh bien, elle ne va pas tarder à arriver. Oui. Nous n'avons pas de nouvelles.